Les apprentis du bien nourri. Bonjour à tous, c'est Jérôme Pernaud, Dominique Rouzier et Hervé Sornic qui, comme chaque mercredi, vous accueillent à Châtellerault au Moulin du Bien Nourri pour vous faire participer à un petit stage de musique. Alors la semaine dernière, on était à la recherche de la beauté. On se demandait pour chaque phrase où résidait le trésor caché. On en est venu à se poser pas mal de questions. Et puis, on est arrivé sur la question de la tonalité. On est arrivé sur la question de l'harmonie. Et puis, avec Shostakovich, c'était plus difficile de déterminer un endroit spécifiquement beau par rapport aux autres. Et finalement, on est arrivé à la question, est-ce que les compositeurs expressionnistes veulent exprimer la beauté ? Et puis aussi à la question, qu'est-ce qu'ils expriment ? Et puis bien sûr, on arrive à la question du discours. Alors, qu'est-ce que le discours en musique ? Eh bien, c'est cette question que nous abordons avec vous aujourd'hui, jusqu'à 13h40, sur France Musique. Alors tout d'abord, on commence par la suite de la conversation qu'on avait entamée la semaine dernière. Comme promis, Alice nous disait, en parlant du concerto pour violoncelle et orchestre de Shostakovich, le premier concerto, c'est pas la même beauté. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Développement. Alors, pourquoi on n'arrive pas à se décider tous sur une chose ?
Parce qu'il y a plein de trucs beaux.
Ouais. Alice ?
Je dirais parce que l'harmonie est moins évidente à déterminer. Enfin...
Bah, c'est pas tonal, en fait. Il y a certains accords qui nous amènent à d'autres, des accords qu'on entend comme une fonction tonale, comme ce fa à la basse dont on parlait tout à l'heure, qui va au mi, c'est une évidence. Puis il y a des harmonies qui sont surprenantes parce qu'elles ne sont pas dans la tonalité, elles ne sont pas ce qu'on attend.
Oui. Je trouve justement que, comme c'est une musique qui est différente à apprécier, je trouve que nos critères, du coup, sont différents pour juger la beauté de cette musique-là. Même si c'est quelque chose qui nous touche, c'est quand même quelque chose de différent.
C'est pas la même beauté.
C'est pas la même beauté. Il y a tout le contexte et l'atmosphère qui est très très important.
Je trouve qu'on veut toujours expliquer la musique, mais est-ce que vraiment ça... Enfin, des fois, c'est quelque chose de personnel et c'est difficile de mettre un mot, en fait, sur des sensations.
Bien sûr.
Quelque chose qui est profond. Je trouve que c'est bien de laisser parler, en fait, par la musique par elle-même, quoi.
C'est sûr, c'est difficile, mais tu fais des études pour être violoncelliste. C'est-à-dire, si tu étais juste public, bien sûr, ce ne serait pas important de savoir si...
Mais ça m'a été utile.
C'est cet accord-là ou cet accord-là. Mais comme tu te destines à être musicien, c'est peut-être mieux de bien connaître le langage dans lequel tu vas parler, quoi. C'est-à-dire que plutôt que d'apprendre des mots les uns après les autres, c'est mieux d'apprendre la grammaire. Ça va plus vite ensuite d'apprendre les mots aussi. Et de comprendre de quoi il s'agit. Alors, donc, est-ce que c'est parce que c'est nouveau qu'on ne comprend rien ? Ou est-ce qu'on comprend instinctivement le langage tonal ? Ou est-ce que... Oui,
Du coup, moi, je veux dire, quand c'est nouveau, du coup, on est un peu perdu, parce qu'il faut qu'on adapte, on s'adapte, en fait, et qu'on arrive à trouver d'autres façons, d'autres manières de comprendre de la musique, et de comprendre... Quand il y a des œuvres atonales, complètement atonales, et qu'on nous met devant cette œuvre-là et qu'on n'a jamais entendu une musique comme ça, on a besoin de temps déjà pour arriver à apprendre et après trouver certaines subtilités qui vont faire qu'on trouve ça beau. Par rapport à la musique contemporaine, j'ai du mal à sentir physiquement si c'est beau avant d'avoir compris pourquoi. Enfin,
ouais.
Dans la musique classique, c'est l'inverse.
On trouve ça beau et après on comprend. Voilà. Ah bah oui. C'est une...
Je pense que l'art, la peinture, la sculpture, etc., contemporaine, et je la comprends beaucoup plus. Elle est beaucoup plus facile d'accès que la musique contemporaine, alors que je suis musicien. Je vais...
Ouais, ça m'intéresse. Alors
et
pourquoi
Et ça, je me suis toujours demandé. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est moi, etc. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont aux expositions d'art contemporain que de gens qui vont au concert ou écoutent dans leur salon un disque de musique d'aujourd'hui. Quoi.
Un tableau, c'est quelque chose qui est concret, qu'on peut toucher, qu'on peut...
Et justement, et la musique tonale, c'est concret. On a l'impression, enfin, c'est concret, que il y a un accord qui nous fait attendre un autre. Et c'est ça la tonalité. Il y a une logique, il y a une grammaire. Et puis alors, quand elle devient atonale, on n'a plus de grammaire. Et c'est curieux d'ailleurs parce que ça s'appelle de la musique concrète, mais c'est ce qu'il y a de plus abstrait finalement. Variation pour une porte et un soupir de Pierre Henry. Alors, donc, hier, on parlait de la beauté. Vaste sujet. Et puis, on en est arrivé à quoi ? Vous vous souvenez ? Alice.
On en était arrivé à comment exprimer la beauté. Enfin,
oui.
C'était le motif de...
Alors, c'est-à-dire, voilà, c'est le discours. C'est, voilà. C'est pas comment exprimer la beauté, mais c'est comment l'amener, comment... Quel procédé on va employer dans le discours pour amener le moment où ça va être beau, en gros, c'est ça. Et donc on arrive au discours, qu'est-ce qu'on va faire pour dire la chose. C'est-à-dire non pas qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on raconte, mais comment on le raconte. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, le discours. Alors, on y va, chacun de sa petite phrase encore, et c'est parti. Qu'est-ce qui commence ? Allez, Alice, puisque t'es là, voilà. Alors, pour arriver à déterminer comment on raconte, déterminons déjà qu'est-ce qu'on raconte. Qu'est-ce que ça raconte ? Alors, en quelques mots.
C'est assez nostalgique pour moi comme thème.
Valéna ?
Très calme et résigné, toi aussi.
Corentin ?
Pour moi, il n'y a plus d'espoir dedans, il n'y a aucun espoir. Et il dit juste les choses telles qu'elles sont.
Maintenant, alors, comment... Comment il dit ça, Dvorak ? Pourquoi on ressent ça ? Pourquoi on ressent à peu près tous ce même caractère là, que vous décrivez ?
Déjà par la tonalité, mineur.
En fait, au début, le thème a un côté un peu répétitif. Et du coup, on voit qu'on insiste vers quelque chose d'assez émotif et expressif. La di do la, la
la. Alors, Edouard.
Bah, il y a les rythmes qui sont vachement lents.
Ce qui fait que ça donne aussi un caractère...
Bah oui, c'est-à-dire que le thème de départ, normalement, c'est... Tim, pom, 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 pom. Et là, oui, en effet, il fait ce qu'on appelle une augmentation. Qu'est-ce que tu voulais dire, Corentin? Quel autre procédé il emploie?
Mais donc, au début, c'est très répétitif, et avec le trémolo, donc ça en rajoute, je trouve, sur la manière répétitive, et on ne sait pas où on va au début.
Ça en rajoute sur quoi, tu dis, ça?
Sur le...
La répétition?
Oui.
Oui, c'est sûr, la do.
Non, mais si
la do se répète souvent.
Plus insister sur le stress que ça crée, quoi, on sait
pas. Oui, alors oui, oui, qu'est-ce que ça crée, ce trémolo?
On sait pas, déjà, ce premier accord, en soi, il est triste, et en plus, ça
le
traîne,
fait que ce soit
un
trémolo,
ça... Tu creusais la douleur.
C'est comme si Dvorak nous prépare quelque chose.
Oui, alors bon, pardon, juste pour en finir sur les trémolos, donc ça donne ce côté frissonnant, quoi, frissonnant de tremblement, quoi, tout simplement, un peu de peur ou de fébrilité. Hein. Et alors, ensuite, donc un autre procédé.
Oui, qui est de. Enfin, justement.
Ça,
et en même temps.
Ça tombe, ça va vers le bas, oui.
En même temps, le piano qui fait l'inverse, quoi, le mouvement contraire. Enfin, après. En fait.
C'est la flûte, c'est
la
pas
flûte.
Le piano.
Ouais.
C'est
la, oui, flûte, la flûte
qui s'envole là-haut, oui. Vous nous la rejouez et vous essayez d'être attentif à la manière dont les choses sont dites pour ensuite nous les décrire. Alors, où se cache la beauté dans cette phrase? C'est quoi pour vous l'endroit le plus déterminant?
C'est ici. La, la, avec le fa. C'est là ce qui déclenche, en fait. On commence à savoir vers où on va. Mmh.
Et après, tout ne fait que redonder. C'est
ouais.
La clé d'oude de la phrase, peut-être. C'est étonnant comme la clé de voûte à ce moment-là est très tôt dans la phrase, mais ça veut dire que tout le reste tombe.
Je veux pas dire que le reste tombe, non, c'est l'élément déclencheur. Et après, le point culminant, c'est la bécard.
Ouais, d'accord. Ouais.
Ouais.
En effet, ce point culminant, il arrive très tôt dans la phrase, et après, tout ne fait que retomber incessamment. Ça va toujours de plus en plus bas, de plus en plus bas. Ça, c'est un procédé rhétorique aussi.
Alors, vous l'aurez compris, la question du jour, c'est plus qu'est-ce qu'il raconte, mais comment il le raconte. On arrive en plein cœur du sujet, la rhétorique. Quels sont les moyens qu'on emploie en musique pour dire ce qu'on a envie de dire? On va découvrir aussi que cette question, eh ben, elle est valable pour l'interprète comme pour le compositeur. C'est Laurence qui poursuit maintenant le cours avec une phrase du concerto de Bruck pour violon et orchestre. Après cette petite récréation là qu'on est en train d'entendre, parce que évidemment dès qu'on les lâche, ils font le bœuf, ils s'amusent dans la salle. Voilà, tout ça c'était dans un cours collectif, toujours du stage de novembre dernier au Moulin du Bien Nourri.
Oui, mais t'as l'air motivé ou pas là pour jouer?
Non.
Toujours pas?
Enfin, ça va être assez fou, quoi.
C'est vrai que ça risque d'être faux. Les procédés du compositeur pour écrire. Maintenant, on va se pencher sur les procédés de l'interprète pour avoir une action sur les discours. Comment souligner certaines choses dans le discours. Ce que tu viens de dire là avec cette phrase de Brooke, est-ce que tu pourrais le dire autrement ? Tu fais comment pour le jouer différemment ?
Déjà, je change de but. La première fois, ce que je visais, c'était le do, enfin là où on est arrivé.
Ouais, la septième.
C'est-à-dire
diminuée,
la
hein.
septième diminuée, ouais. Chercher à aller dessus. Mmh. Et la deuxième fois, chercher à aller plus loin.
C'est un des procédés qu'on peut avoir dans notre sac à malice. De choisir une clé de voûte de la phrase qui soit plus ou moins proche. Si tu veux mettre l'accent sur cette septième diminuée, comment tu vas faire ?
Je vais la faire attendre.
Par exemple, tu peux nous le faire ?
Ouais. Je reprends au début. Là.
Ouais.
Dès que je commence, j'ai en tête la septième diminuée.
Ah oui, c'est ça, oui. Comment tu pourrais le jouer encore différemment ?
Je me mets pas dans le même état pour jouer dans les différentes fois. Enfin, j'essaye de trouver un état différent.
D'accord.
Ouais.
Donc c'est ton état intérieur qui va changer.
Oui, oui.
C'est ça, d'accord. On peut faire quelqu'un d'autre, la même expérience ? Qu'est-ce qu'il emploie, Shostakovich, comme procédé ?
Il répète tout le temps déjà la même note.
Ça se répète, d'accord. Déjà, le fait que les trois notes se répètent, puis surtout que chez Shostakovich, c'est quand même assez redondant, les trois notes qui se répètent. Hein, donc, c'est les fameux trois coups du KGB à sa porte. On a beaucoup parlé de ces trois coups. Et le concerto aussi est construit là-dessus, puisque le premier thème, c'est pom, 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 tacatam, tacatam. Il y a le fait que les trois notes se répètent, bien sûr, et le fait que cet élément-là, tom, pom, pom, pararam, se répète trois fois aussi. Il y a aussi ce procédé bien connu et très utilisé en musique, parce qu'il est naturel, en fait. C'est la règle de 1, 2, 3. La règle de à vos marques, prêt, partez. À vos marques, tam, pam, pam, pararam, prêt. Tan, 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 tararam, partez. Tiroliron, 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 ça se développe. Hein? Tu peux refaire ça. Thank you. aussi que tout soit à la blanche. Hein. Enfin, tout est marqué par blanc. Toutes les blanches sont marquées. Hein, ça donne un côté pour le moins insistant, hein, obsessionnel. Obsession, obstiné, ostinato, rythme mécanique. Tiens, ça me rappelle quelque chose. La note répétée. Ça, c'est un procédé utilisé depuis la nuit des temps. Proscrit par les avant-gardistes du 20e, retrouvé par les mêmes à la veille du 21e. Encore un exemple de basse répétée pour créer l'excitation. Le concerto en do majeur, le final de Haydn avec Corentin au violoncelle.
On l'a plongé. Ah non, il faut se calmer là.
Qu'est-ce qui va donner cette vie là dans cette phrase? Qu'est-ce qu'il utilise comme artifice là, Valéna?
Les contrastes.
Ouais, c'est-à-dire
quel mineur, majeur, piano, forte.
Pas fausse.
Tenue, beaucoup de notes.
Ouais. Oui, tu par là, Alice.
Justement, ce que tu disais, un, deux, trois parties en fait. Là, c'est parti. Et après, là, tout change, le rythme, ouais. L'accompagnement.
Ouais.
Et...
Oui, tout à fait, la phrase est construite comme ça, oui. Absolument. Il y a quoi d'autre là-dedans qui donne.
Une marche.
C'est pas une marche, hein. C'est pas une marche, puisque t'as, la même, t'as le même dessus. Sol, si, ré, si, la, sol, 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 fa, sol, si, ré, si, la, sol, sol. Justement, t'as le même dessus, mais t'as l'harmonie qui change dessous. Okay. Qu'est-ce qui fait que cette chose-là paraît très excitée?
Le rythme à la basse qui donne une certaine énergie.
Là, c'est des octaves parce que c'est une réduction pour piano, mais normalement c'est bam 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 bam. C'est le rythme de l'orchestre, c'est même pas que la basse, hein, c'est tout l'orchestre qui bam 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 bam. Ça fait un peu une forme ancienne pour du Haydn, non? Baroque italien, non? Vivaldi, ça fait, non? Tu trouves pas?
Oh,
Vivaldi, Spinozzi, Jaroussky, voilà des noms qui se marient bien. On en revient à Haydn et à notre question de départ avec tous les apprentis bien nourris de ce stage de novembre. Comment dit-on les choses en musique? Qu'est-ce que le discours en musique?
Attention Alice.
C'est quoi ça?
Non.
Oui. Alors, le fait d'orner une ligne, c'est aussi un procédé rhétorique. C'est orné comme un point d'interrogation, là. Et puis... La place des appoggiatures aussi. Alors là, on n'est plus dans ce que fait le compositeur, mais ce que fait l'interprète quand il joue cette musique-là, d'avoir plus la sensation de parler, de chanter, mais tu vois, de dire la chose. Pourquoi ça explose tellement à la fin ?
La syncope.
Oui, c'est la syncope, bien sûr. Il n'était pas obligé de faire cette syncope. Ça sonnerait pas du tout pareil. Comment tu vas faire pour que ce soit encore plus explosif, cette syncope ? Encore plus rebondissant. Si tu le joues comme un premier temps, elle va pas être en l'air, cette syncope. Elle va être en bas. Un premier temps, c'est en bas. On a l'impression de quelque chose qui est en bas. La syncope, elle est en haut. Et en fait, tout est dans la manière de lancer le temps. Or, le temps, tu ne le lances pas sur la syncope, justement. Tu le lances... Sur le premier temps, bien sûr. Donc, tout va dépendre de la manière dont tu lances ce premier temps.
Alors oui, l'interprète a une grande part de responsabilité, bien sûr, dans la manière de dire les choses. Mais il aura beau faire tout ce qu'il peut pour être compris, évidemment... Si l'œuvre qu'il joue n'est pas parfaitement construite, ses efforts n'auront aucun effet. Mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire construire une œuvre? Qu'est-ce que c'est la forme en musique? Et finalement, j'ai remarqué que la plupart des élèves qui jouent des morceaux n'ont pas idée de la forme. Peut-être qu'on leur en parle pas assez. Très bien, c'est très joli ça. C'est quoi dans le concerto cette phrase? C'est un peu difficile parce que dans cette édition chez Delrieux c'est tout coupé, donc on a du mal à sentir la forme parce que c'est tronqué.
C'est le deuxième thème.
Oui, c'est le deuxième thème, bien sûr. C'est quoi le premier thème? Tu peux me jouer le premier thème une fois qu'on entende?
Thank you.
Il est en quelle tonalité, ce thème, ce premier thème?
En ré mineur.
Ouais. Et le deuxième thème, il est en quelle tonalité?
En fa majeur.
Oui. C'est quoi par rapport à ré mineur, fa majeur?
C'est la relative.
Donc il y a une relation étroite entre les deux. Et ben voilà, encore un procédé rhétorique, le contraste entre deux thèmes. La forme, c'est un procédé rhétorique de taille. Il faut forcément qu'on parle de la forme. Vous connaissez tous la forme sonate? J'attends un oui massif ou un non massif, mais...
Moi, je serais pas capable de te le dire.
Ah bon? C'est très simple. Ce qu'il faut retenir de la forme sonate, c'est qu'elle est en trois parties. L'exposition, c'est-à-dire c'est comme si on présentait le sujet de la conversation. Ensuite, il y a le développement, qui est la conversation à propos du sujet qu'on vient d'exposer. Et puis, la réexposition qui récapitule, d'ailleurs en anglais, on ne dit pas réexposition, on dit recapitulation, qui est même plus parlant. Parce qu'on récapitule, on dit ce qu'on avait dit au départ, et évidemment il y a des petits changements en général, on ne le redit pas tout à fait de la même façon, vu tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vécu avant. Alors, il se peut que tout ça soit entouré d'une introduction et d'une coda, c'est-à-dire d'une conclusion. Et alors, on ne va pas jouer de la même façon un thème ou un développement. Parce qu'un thème, on expose quelque chose, donc on joue un thème de manière sereine, en chantant, etc. Mais ensuite, un développement, c'est comme si on parle de quelque chose sans s'arrêter. Ce serait comme la pensée qui vagabonde. Alors on parle, et on ne s'arrête pas, et on parle. Et donc on n'est pas dans le même état quand on joue un développement, on ne le joue pas de la même façon que quand on joue un thème. Il y a aussi, entre les thèmes, une petite chose qui s'appelle le pont. Et bien c'est pareil, on ne va pas jouer un pont comme on jouera un thème. Parce qu'un pont, c'est fait pour avancer, pour aller de l'autre côté de la rive. On ne stationne pas sur un pont, d'abord c'est absolument interdit dans le code de la route. Alors je ne sais pas, je vais essayer de vous donner quelques exemples peut-être. Mais je ne vois pas dans quoi, là, dans les partitions qu'on a, qu'est-ce qu'on a? On a Dvorak. Donc on a évidemment le premier thème, qui est bien connu du grand public. Ça, on a un premier thème qui est dit de manière assez volontaire, assez sûre. On a ensuite un deuxième thème. Alors, le pont, comment il va arriver au deuxième thème? Alors, vous avez vu ce pont qui nous amène. Maintenant, je vais vous jouer ce pont comme si c'était un thème. C'est puissant, voilà. Vous avez vu la différence? Et maintenant, on le joue vraiment comme un pont. Thank you. chaque note me conduit à la celle d'après. Hein. Je ne m'arrête pas sur une note. Hmm. On ne joue pas non plus un développement comme on joue un thème. Comment ça peut vous servir, ça, pour, dans votre travail? Ce serait vraiment en essayant de bien comprendre ce que vous jouez. Si c'est un pont, c'est pas pareil qu'un thème. Si c'est du développement, c'est pas pareil. Déjà, donc, il faut le savoir. Il faut savoir où on est. Il faut comprendre ce qui est dit. Déjà, sur le plan de la forme. Mais aussi à l'intérieur d'un thème, comme on a vu dans le deuxième thème de Shostakovich, il faut arriver à sentir aussi comment est construit un thème. Quel procédé rhétorique emploie le compositeur pour dire ce qu'il a à dire. Comme ça, en en ayant conscience, vous le direz mieux.
C'est là.
Bah, avec leur valise.
Ouais.
Vous descendez.
Mais moi, j'arrête pas de le dire, hein.
Bah, tu nous as pas prévenu que
t'allais... Ah bah, j'arrête pas de le dire, je gueule. Je fais de la trompe, tout. Moi, ouais, je vais déranger.
Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Assez parlé, assez discouru. C'est la fin du week-end. Il fait nuit, comme d'habitude. On a tous attendu le dernier moment pour s'arracher de notre bon moulin. Et comme d'habitude, on manque de manquer le train. C'est Jean-Pierre Collard qui a réalisé cette émission avec à ses côtés Jean-Michel Bernaud, Bernard Legac, Yann Frécy. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, nous réécouter pendant toute la semaine sur francemusique.com. Vous pouvez aussi nous faire une petite visite sur le blog du Moulin du Bien-Nourri. Très facile de trouver le lien du blog. Vous allez sur le site de l'émission, à la page présentation, et vous verrez, c'est assez sympa, il y a des photos qui correspondent à cette émission sur la page du stage de novembre. Merci à Minouche et Hervé Sornik qui nous reçoivent chez eux avec tant d'amitié. Et merci à notre merveilleuse pianiste, la discursive Karine Cello. Je laisse maintenant la place à Dominique Boutel et vous donne rendez-vous mercredi prochain à 13h sur France Musique. D'ici là,